Quel privilège nous avons, moi et mon épouse, d'être ici avec les jeunes. Moi, je sais que je suis âgé, mais je ne suis pas vieux. Alors, j'entendais vos témoignages, puis je me disais, la parole de Dieu nous dit, ne méprisez pas les petits commencements. Alors,
ça c'est le micro.
Oh, j'ai jamais eu autant d'appareils sur moi. Ça va me faire donner un peu de poids. Alors, moi et mon épouse, vous nous voyez toujours joyeux, toujours heureux, mais je peux vous dire que notre vie a été une vie absolument extraordinaire, remplie de larmes, remplie de découragement et remplie de sourires. Parce que mon épouse a eu un accident d'automobile sévère où elle a eu un traumatisme crânien. Et mon épouse, j'ai eu deux épouses dans ma vie, elle, puis après l'accident. Après ça, elle avait juste envie de mourir. Pendant 12 ans de temps, je la trouvais par terre, puis elle avait plus le goût de vivre. Le moindre petit travail, le moindre petite chose, c'était devenu une montagne pour elle. Et elle croyait que la vie, c'était trop difficile, trop lourd. On a eu un fils qui est tombé aussi dans la drogue. Ça m'a permis de connaître le monde des pushers. Ça m'a permis de connaître tous ces gens-là, de les visiter, les prêtres, les gothiques. Alors, j'ai visité un peu tous les styles. J'ai eu l'occasion d'aller manger avec eux dans les restaurants. Et j'étais tellement heureux de me tenir avec des pêcheurs. Et je me remercie Seigneur qui m'avait préparé pour le ministère d'Élite Écrit. Alors que j'ai rencontré tellement de personnes qui étaient découragées, qui avaient envie de s'enlever la vie. Des gens qui étaient dans une dépression profonde. Des couples qui s'étaient séparés. Et des gens qui n'avaient plus aucun espoir. Combien de fois j'ai eu l'occasion de prier avec eux pour que le Seigneur puisse leur donner l'encouragement dont ils avaient besoin. On va prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, de nous appeler tes enfants. Nous te remercions de la confiance que tu nous fais de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous te remercions, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui est le cadeau des cadeaux pour nous permettre d'être une lumière dans ce monde et d'être ce sel de la terre. Tu reviens bientôt, Seigneur. Tu veux nous investir de ton amour, de ta puissance, Seigneur, afin d'aller partout pour répandre le merveilleux message de l'amour d'un Dieu qui a sauvé cette planète et qui revient bientôt pour chercher ceux qui l'accepteront. À cet instant, Seigneur, je te demande que tu puisses m'aider, Seigneur, à prononcer les paroles dont nous avons tous besoin d'entendre. Afin que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, durant cette fin de semaine, ne demeure pas lettre morte, mais qu'on puisse se lever comme un seul homme, comme une armée, Seigneur, pour accomplir la mission que nous a confiée. Merci pour tous ces jeunes. Et merci, Seigneur, pour ce privilège que tu m'accordes à cet instant, de pouvoir délivrer un message, Seigneur, qui va nous encourager à continuer ce que tu as commencé dans chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Le péché nous déforme, l'école nous informe, les parents nous assomment, la société nous chloroforme et seul le Christ nous transforme. Amen. C'est le miracle que Dieu a fait avec vous et je suis convaincu que si chacun d'entre vous veniez ici pour raconter votre expérience, on serait tellement édifiés qu'on dirait « Merci Seigneur pour les miracles que tu as fait dans la vie de chaque personne qui est ici présentement. » Et on pourrait passer pendant des heures et c'est merveilleux de voir comment Dieu nous utilise et comment Dieu nous fait confiance. J'ai travaillé pendant 18 ans dans l'œuvre du colportage comme notre ami Jonathan. Et vous savez, Jonathan, on avait souvent l'impression que Jonathan, il n'avait pas de langue. Jonathan, il ne parlait pas. Si on demandait quelque chose à Jonathan, Jonathan ne disait rien. On disait, mais comment se fait Jonathan, il ne parle pas? On dirait qu'il n'y a rien à dire. Mais c'est sûr, quand le Seigneur lui a ouvert la bouche, il savait qu'il ne parlerait plus pour rien. Il savait que le Seigneur l'utiliserait. Et je peux vous dire qu'au sein de l'Église, les plus beaux sermons, les sermons les plus édifiants, je les ai entendus de la part de laïcs. Alors, le travail ne se terminera pas avec ceux qui ont des grands diplômes. Le travail se termine avec ceux qui auront reçu leur diplôme du ciel. Et avec une puissance qui va nous étonner. Et les autres vont être tous choqués, offusqués, et ça se peut même qu'ils vous traitent de légalistes et de fanatiques même, parce que vous allez aller. On n'aime pas les gens qui dérangent trop. ou les gens qui disent les choses un peu d'une façon différente, souvent on passe des commentaires qui sont très désobligeants. Dans la présentation d'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez déjà lu. Ce qui m'émerveille dans la parole de Dieu, c'est qu'on peut lire 10 fois, 50 fois et 100 fois, et à chaque fois, le Seigneur nous le présente d'une façon différente qui fait qu'on s'émerveille devant tout cela. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le premier texte que nous avons. C'est-tu moi qui dois, comme si c'est toi, ou j'ai ça dans ma poche, ou j'essaie de toutes choses ici. Pointer un ordinateur, OK.
Ici pour avancer, reculer.
Alors, tantôt, on a lu « Voir avec la perspective de Dieu ». Moi, présentement, ce que j'ai besoin, c'est de voir avec la perspective de Dieu. Malgré tous les miracles que Dieu a accomplis dans notre vie, malgré toutes les choses extraordinaires que le Seigneur nous a fait vivre, une vie chrétienne, pour moi, c'est une vie d'action. Mais c'est une vie aussi où on vit des choses, des expériences qui nous remplissent le cœur de joie et des fois aussi de peine. Parce qu'on rencontre les deux, le succès et l'échec. Des gens qui acceptent, des gens qui refusent. Alors le Seigneur, il savait que ses disciples ne comprenaient pas. Le Seigneur savait que les disciples ne s'aimaient pas. Le Seigneur savait que chacun essayait de s'évaluer l'un l'autre. Et Jésus regardait ses disciples et de quelle façon qu'il les a emmenés à cette mission extraordinaire de pouvoir annoncer la bonne nouvelle partout dans toute la terre. Dans Luc 10, 1, 2, ça dit « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Qu'est-ce que ça veut dire quand on lit un texte comme ça? On peut lire rapidement, on dit, bon, le Seigneur il envoie ses disciples, deux par deux, mais on sait que le Seigneur il n'a rien écrit pour rien. Chaque parole, c'est une lettre d'or, ce sont des mots d'or, c'est des ciselures d'argent, où le Seigneur nous amène à nous arrêter et à dire, qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire à ses disciples quand il a dit une chose comme cela? La moisson, quand on parle de moisson, la moisson, ça fait référence à quoi? Alors, il faut toujours aller voir dans la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous, en tant qu'Adventistes, on ne se fie pas à notre conscience, on ne se fie pas à nos émotions, on ne se fie pas à ce qu'une autre personne nous dit, on se fie à ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ça qui nous unit, c'est la parole de Dieu. Alors, la moisson fait référence à quoi? À deux choses. Premièrement, Matthieu 13, 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Un texte qui parle de cette moisson. L'autre texte, c'est dans l'Apocalypse 14, 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta fossée, moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Deux textes extraordinaires qui nous parlent des événements de la fin des temps. Alors, si on veut résumer cela, on fait référence à deux choses. La première, c'est tous les saints qui sont prêts pour le royaume des cieux. Le Seigneur vient chercher ses enfants. Il vient nous emmener avec lui. Enfin, on s'en tourne à la maison. Alors, il y a des gens qui sont prêts. La moisson est là, la moisson est mûre. Le deuxième texte qu'on a vu dans l'Apocalypse, c'est quoi? C'est le jugement des méchants. Alors, il va seulement avoir deux catégories de gens. Ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Alors, la moisson est prête, nous dit le Seigneur. Maintenant, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alors, eux, ils devaient précéder Jésus. Ils devaient aller avant Jésus. Pourquoi Jésus les envoie? Est-ce qu'il aurait pu y aller lui-même? Bien sûr. Il les envoie pour une raison. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce que la moisson est grande. Et le Seigneur, il sait une chose. Les autres, ils ne voient pas la moisson. Ils ne savent même pas c'est quoi la moisson. Ils n'ont aucune idée c'est quoi la moisson. Le Seigneur dit, la moisson est grande. Oh, Seigneur, la moisson est grande. OK, c'est correct. As-tu quelque chose à nous dire, Seigneur? La moisson est grande. C'est quoi ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, la moisson est grande? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont prêts. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux qui sont prêts à répondre à l'Évangile. Et moi, quand je regarde des jeunes, la plupart des gens disent, « Oh, ben toi, lui, 70 ans, c'est sûr, il est vieux, il est prêt à mourir, c'est normal qu'il réponde à l'appel du Seigneur. » Mais quand tu vois des jeunes qui ont toute la vie devant eux et qui répondent à l'appel de Dieu, tu dis, « Wow, Seigneur, ça, c'est un miracle. Ça veut dire qu'il y a une moisson qui est prête, il y a des jeunes qui sont prêts à répondre à l'Évangile. Et ça, pour les adultes, là, c'est quelque chose qui nous gonfle le cœur de joie, de voir des jeunes qui se donnent au Seigneur. Ma petite fille qui a 17 ans, Cindy, vous l'avez connue, vous savez que le péché a toujours un goût délicieux. Si tu fais l'acte sexuel, va pas dire à quelqu'un que c'est pas bon. Il va dire c'est très bon. Mais ça veut pas dire parce que c'est bon que c'est bien. Ça peut être bon, mais pas bien. Alors, quand tu goûtes au péché, ça a un goût délicieux. Mais après, ça laisse un goût amer. Et elle avait goûté à cela. Alors, elle a renié ses parents. Elle a renié, elle a dit, moi, je veux plus être chrétienne. L'Église adventiste, ça m'intéresse plus. Alors, elle a raconté son témoignage juste avant le baptême. Elle a dit, j'ai tout rejeté. J'ai rejeté mes parents. J'ai rejeté la religion. Je voulais plus être adventiste. Mais elle a dit, quand j'ai fait du colportage en Atlanta l'année passée, elle a dit, le Seigneur m'a rattrapé. J'ai commencé à prier. Seigneur, aide-moi. Puis elle a dit, je veux sortir de la foule et maintenant je veux faire partie de la famille de Dieu. Et c'est pour ça que je dis merci Seigneur que tu as eu cette patience de me ramener vers toi. Il y a des parents qui pleuraient dans la salle parce qu'il y en a beaucoup qui voient leurs enfants s'éloigner, leurs enfants qui rejettent tout. Et il y avait beaucoup de peine. Alors le Seigneur peut faire des miracles encore et ça montre que toute l'éducation qu'ils ont reçue avant n'a pas été faite en vain. Le Seigneur a dit, il a fait des promesses, je sauverai tes enfants, je sauverai tes fils. Alors, quand notre fils est tombé dans la drogue, ça m'a permis de visiter tous les pusheurs. Et je me rappelle d'un pusheur qui était à la toilette, puis il dit, Monsieur Tremblay, je suis en train de lire la tragédie des siècles, puis il dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas, pouvez-vous m'aider à comprendre? Il est assis sur la bolle de toilette, puis il veut comprendre la tragédie des siècles. Et mon fils, il ne comprenait rien là-dedans. Comment ça fait que mon père, il vient? Puis qui parle à mes amis de Dieu. Il n'y a pas d'affaire à parler de Dieu à mes amis, c'est toute une gang de drogués. Dieu nous utilise d'une façon bien souvent inimaginable. On n'a même pas d'idée. Mais Dieu fait des choses extraordinaires. Et je peux vous dire que nos deux fils sont dans l'église, évidemment, avec toute la famille, tous les enfants. Ils vont tous dans nos collèges. Et on remercie le Seigneur que tout ce qui a été fait n'a pas été fait en vain, malgré une dépression de 12 ans où mon épouse n'avait qu'une seule idée, c'était de s'enlever la vie. Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pardon? Même les gens qui ont envie de s'enlever la vie. Ben oui, Seigneur, il dit, bien sûr. Bien sûr. De quoi t'inquiètes-tu? Wow! Le Seigneur est puissant. Et, alors, que dit la Bible sur une grande moisson? Alors, l'histoire, c'est très simple. Vous savez, vous connaissez un peu l'histoire sur la Samarie. Les Samaritains, puis les Juifs, ça se parlait pas. C'était comme chien et chat. Comme nous, dans notre temps, les protestants puis les catholiques, on se détestait, c'est incroyable. On avait même des gangs. Quand on voyait un protestant, on partait après les autres, on lui tirait des roches, on avait des battes de baseball, parce qu'ils nous avaient dit qu'un protestant, ça mérite pas de vivre. Et puis, on changeait de trottoir, on voulait même pas les voir. Alors, on les a haïs au point de former des gangs pour les battre. Les disciples, là, ils voulaient rien savoir des Samaritains. Les Juifs non plus. Mais Jésus, lui, il tombe bien haïssable. Il va d'une place que personne ne veut aller. Il dit, voyons, cette gang de monde-là, là, ça vaut même pas la peine de s'occuper de ça, des Samaritains. Et Jésus, ça dit, comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Alors, pour faire une histoire longue, une histoire courte, ça dit, Jésus, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parle avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, mais que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Les disciples sont vraiment embarrassés. Imaginez-vous s'il y aurait eu un journaliste qui aurait été là. Il aurait dit, regarde Jésus. Hey, il est en train de parler avec une femme de petite vie, là. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est, cette femme-là. C'était fait. Ça passait dans les journaux le lendemain et la réputation de Jésus venait d'être détruite. Et les disciples, ils regardent Jésus et ils disent, pourquoi est-ce qu'il fait des affaires de même? Il ne sait pas quelle sorte de femme que c'est. Pourquoi est-ce qu'il parle avec une femme comme ça? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors, imaginez-vous une femme qui a eu 5 maris. Probablement qu'elle devait être très belle. Un beau corps, un beau visage. Et vous savez, les hommes, Il y a toute une différence entre désirer puis aimer. La plupart des hommes désirent la femme, mais ils ne l'aiment pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est la désirer. Puis une fois qu'ils l'ont, là, ils vont tous lui dire comment est-ce qu'elle est belle, comment est-ce qu'elle est fine, comment est-ce qu'elle est extraordinaire, c'est la femme de leur vie. Ils vont même leur promettre de la marier, puis une fois qu'ils ont le petit, ils partent puis ils s'en vont. Dans notre temps, les parents avaient beaucoup d'enfants, maintenant, c'est les enfants qui ont beaucoup de parents. C'est tout est changé. Alors, il y en a qui sont nés de pères inconnus, de mères trop connues aussi. Alors, c'est sûr que notre société, si tu regardes au Québec, c'est la situation. Et tu vois cette femme-là qui a rêvé à l'amour toute sa vie, et la seule chose qu'elle a l'impression, c'est que les hommes se sont servis d'elle. Et elle soupire après quoi? Après l'amour. Elle n'a jamais trouvé l'amour. Elle vient de parler avec quelqu'un. Sur l'heure du midi, elle ne veut pas que personne la voie parce qu'elle sait que le monde placote. Le monde va dire toutes sortes de choses. Alors, Jésus lui est là et il dit, donne-moi de l'eau. Ben, elle dit, c'est pas ça, là. Les catholiques, les protestants, ne se parlent pas, nous autres. Ah, il dit, tu connaîtrais l'eau que je te donnerais. Elle dit, tu n'aurais plus jamais soif. Ben, elle dit, écoute, donne-moi-en, mais elle dit, t'es rien pour en prendre. Et c'est une drôle de conversation. Et elle essaie de l'emmener sur quoi? Sur une controverse religieuse. Veux-tu dire que toi, ta religion, c'est meilleure que la mienne? Jésus a dit, non. C'est pas ni la tienne ni la mienne, c'est un esprit en vérité. Elle a dit, je ne sais pas trop de quoi il est en train de me parler, mais c'est bizarre un peu. Et Jésus change la conversation complètement. Il dit, va chez ton mari. Elle dit, je n'ai pas. Ben, je sais. T'en as cinq, celui-là avec qui tu restes, pas ton mari non plus. Comment ça se fait que Jésus sait ça? Quelle façon Jésus avait d'aborder les gens selon leurs besoins? Quand il est arrivé avec Nicodème, il n'a pas passé par un détour. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Écoute, c'est un docteur de la loi, c'est lui qui enseigne aux gens comment connaître Dieu et tout ça. Il connaît tout ça, lui. Jésus ne prend pas de détour. Mais la Samaritaine, c'est pas une théologienne. Elle a un autre besoin. Alors, Jésus doit s'adapter aux besoins des gens et non pas aller d'une façon directe. Ben, moi, c'est le même que j'ai appris, puis moi, c'est le même que je fais ça. Si vous saviez le nombre de colporteurs que j'ai eu, j'en avais une trentaine, où chacun avait son idée, et tu avais beau lui dire n'importe quoi, mais eux, ils avaient décidé que c'était comme ça qu'ils faisaient. Et pas longtemps après, on les perdait tous. Ils partaient, puis ils s'en allaient, puis ils étaient découragés. Parce qu'ils croyaient que eux, c'était comme ça, il fallait que ça fonctionne, alors que la méthode de Jésus est tellement différente. Alors, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Et les disciples, ils comprennent absolument rien à la conversation de Jésus. Ils disent, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Imaginez-vous le genre de conversation que Jésus est en train d'avoir avec ses disciples sur la moisson. Pensez-vous qu'ils comprennent vraiment c'est quoi Jésus est en train de leur dire? Jésus leur parle de la moisson. Il leur dit d'avance parce qu'il sait qu'à un moment donné, ils vont comprendre. C'est un peu comme nous. Alors, les disciples ne voyaient aucune moisson en Samarie. S'il y a un endroit qu'on ne doit pas aller, c'est bien là. Ça, c'est sûr. Puis Jésus, lui, il va là. C'est pas un bon endroit, c'est pas le bon moment, puis c'est pas un bon terrain. Nous autres, on pourrait dire, au Québec, c'est dur, les amis. Aïe, 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 Québec. À Montréal, c'est encore pire. Puis à Toronto, allez pas travailler là. Ça, c'est dur à Toronto. Il y a des géants même à Toronto. Hein? Ah, c'est sûr. Alors, les disciples ne voyaient aucune moisson. C'est pas un bon endroit, c'est pas le bon moment, c'est pas un bon terrain. Rien à faire, des gens comme eux, c'est dur au Québec. Et je peux vous dire qu'en faisant du colportage, à un moment donné, je m'en allais dans mon auto, puis là, je regardais les rues. Puis je disais, non, ça n'a pas l'air une bonne rue ici. Je pense que je vais prendre une autre rue. J'arrivais dans l'autre rue, je dis, oh, ce monde-là, non, il me semble que c'est pas ici. Et quand tu tournes comme ça pendant une journée, tu es tellement honteux, tu dis, mais Seigneur, voyons, j'ai prié, j'ai lu la parole de Dieu, puis je ne suis pas capable de sortir de mon auto. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le diable m'avait soudé après mon siège d'auto. Et la seule chose que je pouvais faire, c'est d'avoir peur. Puis je changeais de rue, je changeais une autre rue. Je dis, je pense que je vais aller dans une autre ville. Je change de ville. Pas capable de sortir de l'auto. Wow, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai prié, je t'ai demandé, mais ça ne marche pas. Aïe, aïe, aïe. Les amis, c'est quelque chose. Jonathan, il sait de quoi que je parle. Alors, la peur, c'est l'arme. Le découragement, c'est l'arme la plus puissante que le diable peut utiliser. Et on peut tout faire face à ça. Vous savez, c'est beau de prendre une décision. On a tous pris une décision. Mais ensuite, c'est pas tout. J'appelle ça les 5 D du succès. Décision. Est-ce qu'on a pris une décision ou si on est aussi déterminé? Détermination. Et c'est les mêmes mots en français, en anglais et en espagnol. Et le troisième, c'est diligence. Est-ce qu'on veut se mettre aussi en action? Est-ce qu'on est juste décidé? Est-ce qu'on est déterminé? Est-ce qu'on veut se mettre en action? Et l'autre chose qui est la plus difficile, c'est discipline. Alors, quand j'arrivais à 9 heures pour travailler avec un colporteur qui était encore dans son pyjama, je savais qu'il n'avait pas eu le temps de faire ses exercices physiques, il n'avait pas eu le temps de prendre son déjeuner, il n'avait pas le temps. Alors, il fallait commencer par le début. Ça veut dire que probablement qu'il avait pris un gros repas le soir, et puis là, il avait pitoune toute la nuit, il avait tourné. Quand il se lève le matin, il a une mauvaise haleine. Alors, c'est dur de parler avec les gens. L'haleine, si tu parles au téléphone avec lui, puis ça sent la mauvaise haleine, c'est pas bon. Et c'est sûr que là, tu voyais, les gens, il fallait leur apprendre quasiment un autre style de vie pour qu'ils puissent avoir de la force puis de la résistance. Parce qu'à 9 heures, il venait juste de se lever à 9 heures, puis à 9 heures, on était supposé partir. Alors, il fallait, comme une armée, montrer aux gens une nouvelle discipline, une nouvelle façon de vivre. Alors, nous, c'est pareil. Moi, je faisais de l'arthrite, de l'arthrose, des bursites, des migraines, de l'anémie, tout ce que vous voudrez. Les médecins croyaient qu'à 50 ans, ça serait fini pour moi. Tout mon corps me faisait mal. Mais l'eau me levait le cœur. J'aimais pas l'eau. Et quand on est venu, puis j'ai commencé à lire ces livres-là, je les ai lus à genoux. Seigneur, si ça vient de toi, c'est ta servante, tu nous as donné ça comme un cadeau, je veux l'accepter comme un cadeau. Donne-moi la force maintenant de le mettre en pratique. Et quand je vois les jeunes sont fatigués aujourd'hui, je suis fatigué. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont fatigués demain? Ça n'a pas de bon sens. Il y a quelque chose qui ne marche pas, Seigneur. Tu ne veux pas qu'on soit fatigué. Tu dis que tu nous donnes la force, tu nous donnes l'élan. Et c'est pour ça que je me dis qu'une mission sans passion n'est qu'une illusion. On veut, mais on n'a plus la force de pouvoir le faire parce qu'on manque de gaz, on manque de carburant. Et c'est sûr que le Seigneur nous a donné ses conseils, pas pour être sauvé, mais pour avoir plus de force pour pouvoir travailler pour lui. Sinon, on est toujours à plat, puis on n'a jamais. Et moi, je sais que 2 heures de tôt, les amis, les yeux me tournaient à l'envers. J'étais hypoglycémique à un degré très élevé. Je tombais inconscient et ça me faisait vraiment peur. Je disais, un jour, je vais rentrer d'un arbre ou d'un fossé, ça va être fini pour moi. Et quand j'ai vu après ça, quelques années après, avec le style de vie que Dieu nous donne, partir de Montréal, aller jusqu'à Sydney, 18 heures d'automobile en ligne, prendre après ça le bateau à 11h30 du soir, débarquer à 7h30 le matin. Après ça, le premier colporteur était à 10 heures de distance. Travailler toute la semaine, aller prêcher, visiter les gens, tout ça. Tu reviens, tu fais à peu près 6-7 000 kilomètres dans 2 semaines. Et tout ça, c'est le travail. Tu dis, merci Seigneur, tu as vraiment fait un miracle de donner ce genre d'énergie-là. Et je sais que ça, c'est des miracles que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on a eu ces conseils de santé que Dieu nous donne, pour nous aider à avoir plus de force. Maintenant, Jean 4. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Dans l'Église, vous savez, quand on se coupe ici, là, qu'est-ce qu'on fait? On brise la barrière. Et qu'est-ce qui arrive? L'ennemi rentre. Et puis là, le virus va attaquer les choses internes, puis là, il va y avoir une infection qui va se faire. Et qu'est-ce qui se passe? Les lymphocytes T et les lymphocytes B, ils vont venir à la rescousse, ils vont entourer le méchant avec beaucoup d'amour, ils vont l'étouffer. Alors, vous, les jeunes, ce qui est en train de se passer au Québec, on est en train d'encercler, d'entourer et d'étouffer avec amour la province de Québec. Alors, dans l'Église, on doit trouver des infirmiers et des infirmières. des gens qui ne sont pas en train de surveiller, mais de veiller. Parce que si tu surveilles, tu cherches juste à prendre les gens en défaut. Si tu veilles, tu prends soin. Alors moi, quand quelqu'un m'appelle à 7h moins quart du matin, le sabbat matin, « Guy, c'est fini, il faut payer l'église. »« Ah oui, qu'est-ce qui se passe? » « Ah ben écoute, j'ai foiré, j'ai rentré à 3h de la nuit, j'étais au bar, j'ai consommé, tout. Gloire à Dieu, merci Seigneur, c'est formidable. » Il dit, « Jean-Guy, je ne suis pas assez souple que tu puisses rire de moi. » Non, je ne ris pas de toi, mais il dit, « Je sais quel genre de vie tu faisais. » Il dit, « Comment ça tu m'appelles à 7h moins quart le matin? Voyons. » Il dit, « Tu ne veux plus venir à l'église. » Il dit, « Je trouve ça extraordinaire. » Il dit, « Avant que tu connaisses le Seigneur, est-ce que tu m'aurais appelé ou tu aurais fait ton affaire demain? Ta conscience te disait même pas que c'était mal. » Tu n'avais même pas de conscience. Puis là, il dit, en une, c'est le Seigneur qui te réveille. Puis il dit, va chercher ta Bible, on va lire un texte de Bible. Mon ennemi, ne te réjouis pas. Si je suis tombé, Dieu me relèvera. Il dit, c'est où? Et le matin, il est à l'église. Et il est là depuis ce temps-là. Alors ça, c'était un pusher. C'était un gars qui avait une industrie de cannabis. Avec ses deux guns 38 puis ses chiens Doberman. Sa femme avait volé un gros camion. Alors, c'était le genre de personne. Mais après 2 ans d'études avec ce monde-là, et quand on rentrait dans la maison, il y avait à peu près 4-5 sacs puis un mot. 4-5 sacs, un mot. 4-5 sacs, un mot. On ne lui a jamais dit de pas sacré. Mais après 2 ans, je dis, Chantal, c'est drôle, hein? Tu ne parles plus pareil. Elle dit, je ne parle plus pareil. Je dis, ben non, elle dit, écoute. Écoute, avant, tu étais très pieuse, tu disais beaucoup de mots. Là, tu dis plus ça, elle dit, ah oui. Mais c'est Dieu qui fait la transformation. Et ça, c'est extraordinaire d'accompagner les gens comme ça. Moi, j'appelle ça une cure d'âme. Et ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, dans l'Église, on est très faible dans la préparation parce qu'on n'a pas vraiment d'amis de contact proche. À l'Église, on ne se connaît pas. On est très fort sur la présentation parce que les pasteurs, ils ont tous le diplôme, puis ils sont théologiens, puis ils présentent des affaires, puis ils connaissent la Bible. Ils peuvent même te planter avec la Bible pour te dire comment tu as tort. Et après ça, dans le suivi, on est encore plus faible. Et dans l'Église, il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Alors, le fait que vous regroupez comme ça, vous sentez comme une famille, vous apprenez à vous connaître, et moi, je trouve ça extraordinaire. Et je vois le Québec sous un jour nouveau, et ça me réjouit de cœur quand vous voyez, vous êtes ma joie. C'est comme j'aurais envie de dire, Seigneur, je suis prêt à mourir. Je suis heureux de voir maintenant tous ces jeunes qui vont prendre la relève. C'est extraordinaire. Alors, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. La question qu'on pourrait se poser, c'est celle-ci. Jésus reste 2 jours de plus. Pourquoi? Pourquoi Jésus doit rester 2 jours de plus? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole. Parce qu'il y avait une plus grande moisson. Les disciples, eux, ils auraient passé tout droit. Ils ne seraient même pas préoccupés des autres parce que les autres, ils ne voyaient rien. Ils ne voyaient pas la moisson. Quelle moisson? Ce n'est pas une place pour avoir une moisson. Jésus voyait ce que ses disciples ne voyaient pas. Et je crois que pour nous, c'est exactement la même chose. Souvent, on n'a pas l'impression qu'il y a une moisson, on ne la voit pas. Alors, on a besoin de demander quelque chose au Seigneur aujourd'hui. Quelque chose de tout à fait particulier. Et de la perspective humaine, souvent, on ne voit aucune opportunité. Et ça, je parle pour moi aussi. Souvent, je dis, Seigneur, il y a une opportunité, mais on dirait, je ne la vois pas. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse voir qu'il y a une grande moisson, qu'il y a une opportunité. Quelle devrait être notre prière? Seigneur, ouvre mes yeux et mon cœur pour que je puisse voir les opportunités et que mes yeux puissent voir la grande moisson. Si le Seigneur nous dit qu'il y a une grande moisson, si Jésus nous dit qu'il y a une grande moisson, est-ce que c'est Jésus qui a raison? Si nous autres, on dit qu'il n'y en a pas, parce que c'est parce que dans le fond, on dit, Seigneur, mes yeux sont fermés, je ne la vois pas la moisson. Alors, dans Actes des Apôtres, il me reste 10 minutes? OK. Alors, on va aller rapidement. Vous savez, Étienne avait été choisi pour devenir un disciple. Et Étienne était rempli du Saint-Esprit, ça dit, il n'y a pas personne qui était capable de combattre ses arguments. Étienne était un homme extraordinaire. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Étienne? À un moment donné, qu'il était en train de prêcher, quand Paul voit ça, il dit, « Hey, il dit un gars de même, là, ça ne mérite même pas de vivre. Ah oui, lapidez-moi ça. » Il pourrait dire, « Mais Seigneur, ça n'a pas d'allure. Est-ce qu'elle est la moisson? Regarde un homme de Dieu qui prêche avec puissance, qui est rempli du Saint-Esprit, puis il vient de mourir. Il vient d'être lapidé. Alors, ça veut dire, Seigneur, que le diable, il est plus fort que Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est injuste. Pourquoi cet homme-là a été lapidé? Pourquoi le Seigneur ne l'a pas sauvé? » On pourrait voir la situation de cette façon-là, mais Jésus, lui, il voit d'une façon complètement différente. Et cet homme-là, à cause du témoignage d'Étienne, il n'est plus capable de dormir. Et le Seigneur, sur le chemin de Damas, il va recevoir cette lumière. Cette lumière qui va l'aveugler pour qu'enfin il puisse voir. Pendant 3 jours de temps, il ne voit plus rien. Et c'est là qu'il peut rentrer en lui-même, que le Seigneur peut lui parler. Et cet homme-là va devenir le grand apôtre qui est Paul. Est-ce qu'il va y avoir une grande moisson? Encore plus grande. Le Seigneur voit d'une façon différente de nous. On peut voir des gens qui meurent puis trouvent ça injuste. Le Seigneur dit non. Il n'y a rien d'injuste. Je sais que moi, où aller la grande moisson. Faites-moi confiance. Pensez pas que c'est injuste. Dieu est amour. Moi, je peux me remettre en question, mais je ne peux pas remettre Dieu en question. Dieu est amour. Moi, je ne suis pas amour. Moi, je sais, je suis haïssable un peu même. Et puis, j'ai bien plus confiance au Seigneur que je peux avoir confiance en moi. D'ailleurs, j'ai peur de moi parfois. Seigneur, aide-moi. Je suis mon pire ennemi. Et surtout quand je me regarde dans un visage, dans un miroir. Alors, Étienne est choisi. Alors, c'est l'histoire qu'on a vue un petit peu tantôt. Alors, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, cette vision qu'Étienne a eue, il savait que Dieu était là à ses côtés. Et quand Jésus se lève, les amis, quand il est assis, puis quand Jésus se lève, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Jésus a tout vu, il savait tout, Jésus s'est levé, Étienne a été lapidé, et pas longtemps après, c'est Paul qui est appelé. Et qu'est-ce que Paul dit? « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Le persécuteur va devenir le persécuté. Celui-là qui haïssait tous ces chrétiens-là va devenir celui qui va prendre la défense des chrétiens. Il y a seulement Dieu qui est capable de faire des choses comme ça. Seulement Dieu qui est capable de transformer des vies comme ça. Tu es capable de prendre des choses qui, à nos yeux, semblent impossibles, et Dieu rend cela possible de sa vision à lui. Alors, on a l'impression que le diable gagne et est plus fort. Et la moisson, on a vu qu'est-ce qu'Étienne a vu, qu'est-ce qui est arrivé. Alors, c'est Paul qui était tremblant et saisi d'effroi. Il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Alors, quand Dieu nous permet qu'on rentre en contact avec son Église, quand on vient dans l'Église de Dieu, qu'on dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et on te dira ce que tu dois faire. Vous avez entendu beaucoup d'instructions durant cette fin de semaine. Et je crois que le Seigneur a quelque chose pour chacun d'entre vous, parce que chacun a des talents particuliers et différents. Et si on veut être utilisé par le Seigneur, si on lui demande de nous ouvrir les yeux pour voir la grande moisson, le Seigneur va faire des miracles dans chacun de nos vies. Et je vois les choses d'une façon extraordinaire. On dit souvent, le meilleur reste à venir. Si la moisson est grande, où est le problème? Il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il y a peu d'ouvriers, le Seigneur nous dit? Pourquoi est-ce qu'il y a peu d'ouvriers? Alors, ça c'est dans Matthieu 21, il y a 2 fils. Puis il y en a un qui dit, « Moi, je n'y vais pas. » Après ça, il décide d'y aller. L'autre, il dit, « Moi, oui, moi, je suis correct, je réponds, puis je vais y aller. » Puis ça dit, « Il ne va pas. » Pourquoi vous pensez qu'il a dit qu'il allait y aller, puis il ne va pas? Pourquoi est-ce que... Est-ce qu'il était... Il voulait juste faire plaisir à son père? Est-ce que... C'est quoi la raison pour laquelle il a dit oui, mais finalement, il ne le fait pas? J'étais à Westmont un jour, et le pasteur m'avait dit, « Monsieur Tremblay, on aimerait ça vous prêcher, mais nous autres, on a besoin d'un gros nom dans notre église. » Parce que c'est Westmont, c'est une grosse église. J'ai dit, « OK, on va appeler quelqu'un de la conférence générale. » Alors, on l'appelle Bob Smith. Et là, il est tout content parce que c'est Bob Smith. Et le monsieur, il prêche avec beaucoup de puissance. Puis, il dit à l'église, « Aujourd'hui, on va avoir un kiosque. » Il dit, « Pour le représentant évangélique. » Il dit, « On aimerait que tous ceux qui croient à ce ministère, et tous ceux qui veulent nous encourager, qu'après-midi viennent, on a des choses pour vous, on a installé un kiosque. Mais j'aimerais que vous vous leviez, pas parce que les autres se lèvent, mais j'aimerais que vous vous leviez parce que vous y croyez. » Et tout le monde se lève. Et là, le cœur nous dit, bon, on dit, quelle puissance de prédication. Et dans l'après-midi, alors que mon épouse est là avec tous les colporteurs, savez-vous combien de personnes sont venues? Deux personnes. Une dans sa chaise roulante, puis l'autre est à 80 ans. Oh, il dit, Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Mais qui on est vraiment, Seigneur? Pauvre aveugle et nu. Alors, c'est des choses qu'on vit au sein de l'Église, et l'ennemi peut prendre ça aussi pour nous décourager. Parce qu'il faut dire, hey, c'est ça l'Église! Le Seigneur dit, non, calme-toi, énerve-toi pas. Demande pas ce que les autres peuvent faire, toi, fais quelque chose pour moi, c'est tout. Alors, si tu attends après les autres, tu vas attendre tout le temps. Si vous attendez après la fédération, vous attendez après rien. Mais si vous allez par la puissance de Dieu, les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe avec Jaffa? C'est extraordinaire, tout le monde est en train de parler de Jaffa. Dans les autres pays, ils disent, qu'est-ce qui se passe avec Jaffa? On veut savoir, on veut avoir la même recette qu'eux. Et ça va faire une boule de neige. Et les gens vont dire, waouh, Jaffa, un groupe de jeunes. Ça va réjouir le cœur de nos dirigeants, puis ils vont dire, Seigneur, on est tellement heureux que tu nous as envoyé ce groupe de jeunes. C'est eux qui sont en train de nous réveiller, nous qui dormons sous la switch. Même dans nos réunions pastorales, hein? Tu vois, les pasteurs sont fatigués, je vous dis, ils sont fatigués. Alors, il faut les aider. Il faut vraiment les encourager. Soutenez leurs mains, soutenez leurs pieds, soutenez ce que vous pouvez, mais aidez-les. Alors, je vais rapidement. Oui, j'ai terminé de toute façon. Alors, le fils a dit, OK, je veux pas y aller. Alors, c'est quoi nos excuses, nous? Alors, on voit dans Luc toutes les excuses. J'ai acheté un terrain, mais j'ai pas les talents. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'auto. Je suis tout seul. Je suis malade. J'ai pas de temps. Tu peux, les excuses, tu peux toutes les sortir. Je viens juste de me marier, puis le bébé, il pleure toute la nuit. Puis, tu peux avoir tellement d'affaires, finalement, qui te freinent et qui t'empêchent de pouvoir le faire. Puis c'est toutes des excuses qu'on peut se donner, alors que le Seigneur nous dit non. Malgré tout cela, je peux t'utiliser, puis tu peux faire un ministère extraordinaire. Amen. Il y avait une jeune fille où le pasteur disait, comment ça se fait que cette jeune fille-là emmène plein de monde à l'Église? Elle n'a pas d'éducation, elle n'est même pas belle, elle n'a pas d'allure, elle ne sait pas s'exprimer, mais pourquoi est-ce qu'elle amène du monde de même? Et personne n'osait lui demander. Et le pasteur, il va la voir, il dit... Elle dit, comment ça fait? Il dit, c'est qui ce monde-là? Elle dit, ben, c'est du monde. Elle dit, que je connais, puis ils viennent ici. Mais oui, mais elle dit, comment tu fais pour les emmener? Elle dit, je fais rien. Oui, mais il dit, écoute, tu dois faire quelque chose, ça se peut pas. Ben, elle dit, moi, je vais vous dire, j'ai pas été à l'école, puis elle dit, vous savez, elle dit, moi, la seule chose que je vais voir les gens, je dis, moi, je sais pas lire. Ben, elle dit, mais je suis en train de suivre des cours qui parlent sur la Bible. Ben, elle dit, pourriez-vous m'aider à faire ce cours-là, vous allez le lire, puis moi, je vais vous dire c'est quoi, puis vous allez marquer la réponse. Puis elle dit, moi, c'est tout ce que je fais. Puis elle dit, le monde, ils font tout le cours. Puis après ça, ils me demandent, à quelle place que est mon église? Puis elle dit, je les emmène à l'église. Quand quelqu'un va être utilisé par le Seigneur, il me dit, Dieu, il nous étonnera toujours de voir la façon dont Dieu peut faire les choses. Dieu nous étonnera tout le temps parce qu'il ne fait pas les choses comme nous. Ça, c'est bien évident. Et je crois que quand la parole de Dieu nous dit d'être toujours joyeux, toujours joyeux. Moi, j'ai toujours été constipé. J'étais un homme vraiment pas capable de sourire. Mais c'est drôle, dans l'Église, avec le Seigneur, j'ai retrouvé l'Église et je me suis jamais pensé drôle. Et des fois, j'en viens pas de voir les gens qui rient. Je dis, mais pourquoi il me semble que j'ai rien dit de drôle? Pourquoi est-ce qu'ils rient? C'est-tu ma face qui est drôle? Je sais pas. Il rit tout seul. Il dit, il me semble que je suis pas drôle. Je ne sais pas. Je pense qu'au sein de l'Église, j'ai réalisé toutes les carrières ratées que j'aurais pu réaliser dans le monde. Alors, je pense que l'Église, c'est un centre de formation. Et dans l'Église, on peut se réaliser d'une façon absolument extraordinaire avec tous les dons et les talents que Dieu nous donne. Alors, veillez donc! Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la moisson, ou le soir, ou le milieu de la nuit, au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Quoi? Veillez. Alors ça, c'est ce que Jonathan nous a présenté hier. Veillez. Ça, c'est pour moi aussi. T'as beau être dans l'Église pendant des années. Moi, je sais que j'ai été affecté par le péché. Mais je réalise même pas jusqu'à quel point je suis infecté par le péché. Parce que moi, toutes les danseuses, là, les bords de danseuses, je les connaissais toutes. Je n'étais pas capable d'en manquer une. Je les connaissais toutes dans la province. Je sais c'est quoi le péché. Je sais c'est quoi aller danser. Je sais c'est quoi faire des choses pas correctes. Je sais c'est quoi tromper sa femme. Je l'ai fait. Et je sais que je suis à risque. Et je sais que je dois veiller et prier. Non pas me méfier des autres, des dirigeants, mais me méfier de moi. Parce que le Seigneur dit, je le dis à qui? Je le dis à tous. Veillez. Et c'est ce qu'on doit faire. L'Église est endormie. On est endormi. Le Seigneur nous dit de veiller. Puis Seigneur, réveille-nous. Parce qu'on a besoin d'être réveillés. Sinon, si on s'endort, on va rester collé sur nos chaises et on ne sera pas capable de sortir de notre tour. Parce qu'on va dire, Seigneur, la peur nous étreint et on a l'impression qu'on ne va pas nulle part. Alors voilà, ne permets pas qu'on s'endorme, réveille-nous, et je crois qu'on devrait terminer avec ça. J'aimerais inviter celui qui est dans le ministère de la prière, notre frère Sichler. On se met à genoux et par rapport à ce que c'est qu'on a vu, par rapport à cette moisson, d'aider à voir la moisson, mais à voir avec la perspective de Jésus, qui nous dit que la moisson est grande. De nous aider aussi à ce qu'on ne puisse pas s'endormir malgré tous les beaux messages qu'on a entendus, malgré toutes les belles choses qu'on entend. Qu'on puisse, par la grâce de Dieu aussi, utiliser les dons et les talents que Dieu nous a donnés pour encercler le Québec, pour entourer le Québec et pour étouffer le Québec avec l'amour de Dieu, pour ne pas que l'infection continue à se répandre.